Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, à travers votre voix. Vous en avez ouvert une autre, celle de la poésie urbaine, à travers un album. Vous démontrez aujourd'hui que vous êtes aussi un homme urbain lorsque vous parlez des femmes. Bonjour Grand Corbin.
Bonjour.
Alors, on vous reconnaît bien sûr à votre voix entre mille. Et il y a ce nouvel album, Mesdames, dont on va parler. Mais vous avez aussi un parcours qui mérite d'être raconté avec la sincérité que vous avez dans ces clés d'une vie à partir d'une date. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er février 2017. C'est la sortie d'un film dont voici la bande originale. Patient, c'est votre premier film.
C'est ça.
Et c'est inspiré de votre vie.
Ouais, c'est adapté de mon livre, Patient, oui. Du même nom, qui est lui-même évidemment le récit exact d'une année dans ma vie. C'est pas toute ma vie, c'est pas un biopic,
non.
Mais d'une année, c'est celle de ma rééducation après l'accident. Ouais.
Voilà. Alors, vous ne faisiez pas de cinéma, c'est nouveau pour vous.
Ouais, c'est nouveau et c'est une fois de plus, ça a démarré par l'écriture. C'est qu'avant de réaliser ce film, moi, je voulais surtout écrire un scénario. Je voulais m'attaquer à un nouveau code d'écriture. Voilà, j'écrivais déjà des chansons pour moi, des chansons pour d'autres. J'avais écrit une fois un livre. Et là, je voulais m'attaquer à ce code qui est le scénario, les dialogues, tout ça. Donc, je suis entré dans le cinéma par l'écriture. Et finalement, je suis allé au bout du projet. J'ai réalisé le film avec mon pote Mehdi.
Oui, Mehdi Idir, qui a réalisé tous vos clips et qui vous a dit, bah, vas-y, travaille avec moi.
Voilà.
Alors, il faut savoir qu'il a été danseur de hip-hop, Mehdi, et que le terme hip-hop s'est souvent attribué à un rappeur de Grandmaster Flash qui s'appelait Kes Cowboy. Et le hip-hop, la première fois qu'on l'a vu dans un journal, c'est dans un article du Village Voice, en américain, un certain Steven Hager qui a développé le mot et l'a mis dans le langage courant.
D'accord.
Alors, vous êtes tellement concentré pendant ce film que vous en oubliez presque le personnage principal, qui est vous.
Ouais, j'en oublie presque. Bon, évidemment, c'était plutôt voulu. Le personnage principal dans ce film s'appelle Ben, il s'appelle pas Fabien. Et l'idée, justement, c'était de se détacher de moi pour... évidemment, c'est mon histoire, je me suis appuyé sur elle, je la connais bien. Et puis, toutes les scènes du film ont existé, tous les personnages du film ont existé. Mais en même temps, voilà, on s'en fout presque que ce soit arrivé à Fabien, dit Grand Corps Malade. Voilà, l'idée, c'était justement que la carrière que j'ai eue après ne pollue pas l'histoire. Et que l'histoire, finalement, j'avais envie de m'en écarter, peut-être aussi un peu par pudeur. Mais aussi parce que l'idée, c'était que ce soit l'histoire de n'importe quel gamin de 20 ans à qui il arrive un grave accident.
Oui, un accident en tombant dans une piscine, on le rappelle, il n'y avait pas assez d'eau, ce qui était assez inattendu et assez fou.
Ouais, en fait, c'est un accident très courant qui peut paraître vraiment bizarre comme ça, mais moi, quand j'étais en rééducation, en fait, la deuxième cause de tétraplégie, après les accidents de la route, c'est les accidents de plongeon. Donc, malheureusement, c'est très courant.
Alors, ce film a été tourné à Coubert, là même où vous avez suivi votre rééducation, et vous avez fait tourner les patients qui étaient là.
Oui, bien sûr. Bah, évidemment, on avait besoin d'un centre de rééducation en activité avec des figurants, etc. Donc, dans les figurants, on a pris les vraies infirmières, les vrais aides-soignants et les vrais patients.
Et les kinés leur ont appris presque à jouer. Ils ont servi de coach.
Oui, exactement. Bah, ça, mon ancien kiné était là un peu en conseiller technique. Et il a formé l'acteur qui joue le kiné dans le film. Et voilà, du coup, quoi de mieux pour avoir les bons gestes que les vraies personnes qui étaient là à l'époque.
Alors, vous n'êtes pas le premier à avoir ce genre d'accident, c'était l'accident de la route, mais on a dit un jour à Serge Lama qu'il ne remarcherait pas. En 65, le 12 août, il a un grave accident de voiture, il passe plusieurs semaines dans le coma, on le croit perdu, il s'en sort par miracle, et lui aussi, on lui avait dit que impossible un jour qu'il puisse remonter sur scène. On voit ce qui s'est passé, et vous aussi, et je crois que le côté sportif a beaucoup joué. Encore malade.
Sûrement, après c'est difficile de savoir ce qui a joué, ce qui n'a pas joué, ce qui a aidé ou pas. Évidemment, il y a une part de chance, une part d'inexplicable. Voilà, il se trouve qu'on m'avait dit que voilà, la moelle épinière était trop touchée pour que l'influx repasse et que je ne remarcherais pas. Bon, bah, finalement, c'est repassé. Après, évidemment, le fait que j'étais très sportif, que j'avais une bonne conscience de mon corps et qu'après, en rééducation, j'avais l'habitude de l'effort, ça a dû aider.
Alors, sans cet accident, vous seriez sans doute aujourd'hui un basketteur professionnel à la retraite.
Ouais, peut-être. Alors, ce serait déjà beau, hein, parce que c'était pas gagné que je sois professionnel. Hein. J'aspirais à jouer à un bon niveau. Après, j'ai eu mon accident juste avant mes 20 ans. J'étais pas encore pro. Voilà, j'aurais pas joué en NBA. Hein. J'aurais pas fait une énorme carrière de toute façon.
Et le basket, c'est une passion depuis toujours?
Depuis l'adolescence, ouais, j'ai découvert ça vers...
C'est venu comment?
Voir Jordan à la télé. En 1992, l'équipe américaine, la fameuse Dream Team au JO de Barcelone. Tout ça, ça a participé au fait que ouais, j'ai adoré ce sport.
Et vous faites 1m96, donc ça aide à devenir basketteur.
C'est mieux que si on faisait 1m60, ouais.
Oui, alors je me suis un peu renseigné, grand corps malade, le plus grand joueur de basket au monde, il s'appelle Bock Wagner, et là, il mesure 2m34.
Ah oui.
Et déjà à 13 ans, il mesurait 1m98.
Ah oui,
et il espère
pas.
Jouer un jour en NBA.
D'accord, moi, j'en ai connu pas personnellement, mais ouais, les plus grands que j'ai vus en NBA, ils faisaient 2m30, et ouais, ils n'ont pas besoin de sauter beaucoup pour toucher le cercle.
Et à cette époque, vous aviez été repéré par un entraîneur?
Oui, à 17 ans, ouais, j'avais une proposition de jouer au centre de formation de Toulouse, mais voilà, finalement, j'ai préféré passer mon bac d'abord.
Oui, et puis vous avez été à Nanterre, à Saint-Denis, à Aubervilliers. En National 3, c'est quoi ?
National 3, comment vous dire ? 1, 2, 3, c'est l'équivalent de la 5e division. Donc, c'est pas encore le très haut niveau, mais ça commence à être un niveau national, quoi.
Alors, vous avez aussi passé un diplôme, on le sait peu, d'études universitaires générales en sciences et techniques des activités physiques et sportives, parce qu'il faut un diplôme précis.
Ah oui, ça aide. Non, à la base, je faisais des études pour être professeur de sport, professeur d'EPS. Et finalement, après, j'ai changé de voie pour travailler dans le management du sport, donc tout ce qui est événementiel sportif.
Et puis, l'école, ça s'est bien passé, je crois, dans vos jeunes années, sauf en conduite. Vous étiez un peu dissipé.
Un peu dissipé.
C'est-à-dire ?
Bon, c'est un peu chahuteur. Ça a donné lieu à quelques avertissements de conduite, mais rien de très grave. Je connaissais la limite à ne pas dépasser.
Et surtout, vous étiez un élève travailleur.
Moyen. Moyen. J'avais des facilités. J'étais plutôt bon à l'école, mais non, je n'étais pas un énorme bosseur.
Alors tout ça, bien sûr, se retrouve dans le second film que vous avez fait, parce que finalement, Patient a été un succès et ça a entraîné la vie scolaire.
Exactement. Donc 2 ans plus tard, avec Mehdi Idir, on a remis ça. On a fait un deuxième film qui est inspiré... Un peu de ce qu'on a vécu nous au collège, un peu de la vie perso de Mehdi. Et du coup, on est retourné au collège à Saint-Denis pendant 4 mois. Donc 2 mois pour préparer le film et faire le casting, 2 mois pour le tourner. Et voilà, pour essayer de se demander un peu à notre époque comment ça se passe dans les réseaux d'éducation prioritaire, donc dans ces collèges qui appartiennent à des quartiers très populaires.
Et depuis les années 90, ça a beaucoup changé.
Pas tant que ça, en fait.
Bon,
non, justement, on a trouvé que, mis à part la grosse différence, évidemment, c'est les réseaux sociaux, c'est les téléphones portables, etc., mais les problématiques restent les mêmes, et finalement, les quartiers populaires, depuis l'époque où moi j'étais ado, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution.
Déjà, c'était compliqué à l'époque, quand vous étiez ado, les collèges?
Bien sûr, ouais, on était dans un collège... très sportif, on va dire, très dynamique, dans un quartier populaire, et toutes les problématiques, les histoires, la misère, les bagarres, on a retrouvé ça. Je pense qu'à la limite, l'évolution, je pense qu'il y a encore plus de misère aujourd'hui qu'à l'époque. En tout cas, dans le quartier où on a tourné, c'était assez marquant que dans le quartier, il y a vraiment, vraiment des gamins qui ne mangent pas à leur faim, et il y a une misère sociale qui est incroyable.
Et ce film, d'ailleurs, a touché beaucoup de gens, parce que justement, ils ont découvert tout ça.
Ouais, il y en a qui le connaissaient déjà, mais du coup, ça leur a plu et ça les a fait rire, parce que le but aussi, c'est un film qui se veut aussi une comédie, parce qu'évidemment, on tourne avec des gamins de 14-15 ans, et ces enfants-là, évidemment, ils ont la vanne comme art de vivre, donc on a essayé de rendre ça aussi, ce côté très, très, très virtuose au niveau de la tchatche.
Et d'ailleurs, comme dans le premier film, vous avez utilisé des figurants qui ne sont pas des comédiens, les enfants qui n'avaient jamais fait de cinéma.
Exactement, voilà. Même les rôles principaux dans la vie scolaire sont des ados qui n'avaient jamais fait de cinéma.
Comment on fait pour les faire répéter ?
Comme les vrais, comme les pros, et ils ont été épatants. On est allé les chercher pour la plupart dans le quartier de Saint-Denis, et puis on les a fait répéter. Ils avaient envie de bien faire, ils avaient une certaine fierté à savoir qu'on les avait choisis, et du coup ils ont été très très pros pendant tout le tournage.
Et peut-être d'ailleurs que certains d'entre eux feront un jour du cinéma ?
Ouais, il y en a 2-3 là qui ont depuis un agent, et il y en a un déjà qui a retourné dans un film. Voilà, il y en a 2-3 qui essayent de poursuivre cette voie.
Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se produit. Fabien Anténiante, le metteur en scène, un jour il avait 12 ans, il vivait dans une cité comme ça, et il y a un film de Michel Audiard qui se tourne, il vient assister au film, il devient figurant, et résultat, il est devenu metteur en scène, il a eu la vocation.
Ouais, c'est possible. Sûr qu'il y a beaucoup de carrières comme ça... de gens qui viennent un peu par hasard ou qu'accompagne un copain à un casting. C'est le cas de notre rôle principal, Liam Pierron, dans le rôle de Yanis. À la base, il accompagnait un pote au casting. Finalement, il se fait un petit essai derrière la caméra et puis il s'est retrouvé premier rôle.
Et tout ça s'est passé à Saint-Denis parce que vous êtes attaché à ce Saint-Denis.
Oui, c'est ma ville. J'ai vécu 35 ans. J'ai fait toutes mes armes là-bas, les écoles, le sport. Et donc, évidemment, je suis très attaché.
Eh ben, vous continuez à être attaché à ça. Et pas seulement, d'ailleurs, dans la vie quotidienne. On en parle avec une autre date, le 29 août 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Grand Corps Malade.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grand Corps Malade. Cet album Mesdames dont on va parler tout à l'heure. Mais une date importante dans votre vie, c'est le 29 août 2003. L'esplanade du Stade de France. Avec une première partie d'un concert de Cheb Mami.
Ah oui, j'aurais pas retrouvé la date, mais ouais, bah, j'avais commencé le slam dans les petits bars. Et puis petit à petit... C'est un petit peu professionnalisé, on a commencé à faire des spectacles un peu plus étudiés, un peu plus organisés, et puis on a eu quelques propositions de festivals, et puis voilà, un jour, j'ai fait la première grande scène, alors c'était pas à l'intérieur du Stade de France, hein. C'était un concert sur l'Esplanade, alors il y avait quand même plusieurs milliers de personnes, en première partie de Cheb Mami. Ouais.
Voilà. Cheb Mami, à l'époque, il retrouvait la scène, parce que lorsque la guerre en Irak avait éclaté, il ne voulait plus faire de scène, et il a eu ensuite quelques ennuis judiciaires. Il s'est retrouvé en prison pour des histoires d'avortement sur sa
compagne. Ça c'était après.
Après,
là,
oui.
À ce moment-là, il n'était pas encore sous toutes ces affaires-là. Oui, la suite, c'est compliqué pour lui.
Ah oui, en plus, il a été accusé d'être ami du pouvoir. Enfin, ça a été très compliqué. Ouais. Donc, vous êtes passé juste avant. Alors, ce spectacle au Stade de France, c'était dans le cadre d'un forum mondial du sport organisé en marge des championnats du monde d'athlétisme. C'est-à-dire, on rejoignait votre passion du sport.
Oui, ouais, c'est marrant. C'est que du coup... Exactement, j'ai travaillé au Stade de France, moi, au marketing.
Oui.
Donc du coup, là, c'était rigolo. Cette fois, une fois maintenant que je travaillais plus au Stade de France, d'y revenir avec cette fois la casquette d'artiste. Ouais.
Et comment, au Stade de France, vous êtes arrivé comment pour le marketing ?
Bah, du coup, j'avais fait des études de management du sport, je suis allé au bout, un DESS, ça s'appelait à l'époque, ça doit s'appeler Master 2 maintenant, un truc comme ça. Et du coup, bah, enfin, en stage de fin d'études, je suis allé à la direction marketing du Stade de France et voilà, ils m'ont gardé pendant 4 ans.
Ouais, et encore votre passion du sport. Et ce jour-là, pour ce forum, la passerelle qui conduit du Stade de France aux berges du canal du Saint-Denis avait été rebaptisée Promenade Futuriste, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y avait une fausse piste de tartan avec les 8 couloirs réglementaires.
Ouais, ça je me souviens, je me souvenais pas du nom. Je me rappelle que, voilà, qu'ils avaient transformé l'esplanade en piste d'athlétisme. Ouais.
Et il y avait un débat, l'athlète est-il une marchandise ?
Ah, ça je m'en souviens pas.
Voilà. Alors, justement, après ce Stade de France, vous avez fait beaucoup d'autres choses, mais avant votre naissance, c'est Blanc-Ménil. Et c'est vrai, le Blanc-Ménil, c'est près de Paris, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Vous êtes très attaché à cette ville et à ce département.
Ah ouais, donc Blanc-Ménil, c'est dans le 93. Blanc-Ménil, je connais pas. J'y suis juste né, mais sinon, moi, j'ai vécu vraiment tout le temps à Saint-Denis. Et donc, oui, c'est une ville, Saint-Denis, un département, le 93, voilà, qui a du caractère, un endroit très, très, très multiculturel, un brassage des cultures qui me paraît être une vraie richesse. Moi, je suis très fier et très heureux, et je considère que c'est une richesse d'avoir grandi dans ce brassage des cultures.
Oui, en plus, il faut savoir que Blanc-Ménil et les environs, c'est le plus grand ensemble de logements collectifs de bois en France. Qu'on ne sait pas assez. Parce que finalement, on dit toujours, on parle de Saint-Denis du 93, on voit que le mal, on ne voit pas le bien.
Bien sûr, il y a beaucoup de belles initiatives.
Alors, vous avez vécu à Saint-Denis aussi à Noisy-le-Sec.
Ouais, ça, pareil, j'ai vécu à Noisy-le-Sec de 0 à 3 ans, donc ça, j'ai peu de souvenirs.
Voilà.
Je vous dis, à partir de 3 ans, je suis allé à Saint-Denis, et là, par contre, j'y ai passé 35 ans.
Voilà. Et le département de la Seine-Saint-Denis, qui a été créé en 68, c'est le 93, et le 93, on a pris ce chiffre en reprenant l'ancien département de Constantine en Algérie, qui était le 93.
D'accord.
Vous ne saviez pas ?
Non.
Alors, c'est un quartier dont on ne parlait pas autant dans les journaux qu'aujourd'hui. On y vivait, il y avait des bagarres, mais on y vivait quand même plus tranquille.
Quand j'étais petit,
oui.
Oh, très vite à l'adolescence, je me rappelle que j'étais assez choqué de ça. Dans les médias, on commençait déjà bien à montrer du doigt la banlieue nord de Paris, le 93, Saint-Denis. Évidemment, il y avait beaucoup de stéréotypes sur ma ville. Bien sûr, c'est une ville qui a des difficultés. Il y a de la misère, il y a de la violence, mais en même temps, il y a tellement d'autres choses. Et en plus, on n'a pas le monopole de la violence en région parisienne. Donc évidemment, ouais, quand tu grandis là-dedans, t'es un petit peu chagriné de l'image qu'en font tout le temps les médias.
Et puis en plus, vous étiez bien placé familialement pour savoir ce qui se passait, parce que je crois que votre père est fonctionnaire territorial.
Exactement.
Donc plongé là-dedans, et votre mère bibliothécaire.
Exactement.
Donc elle savait ce que ça voulait dire, et surtout, vous aviez le goût des livres, et tout petit et adolescent, vous écriviez déjà beaucoup, Grand Corps Malade.
Bon, beaucoup non, peut-être pas beaucoup, mais j'écrivais déjà un peu à l'adolescence, j'ai écrit mes premiers textes, je ne sais pas si c'était des paroles de chansons, des poèmes ou des textes de rap, parce que j'écoutais aussi beaucoup de rap. En tout cas, c'est des textes que personne n'a vus et qui sont restés cachés dans mon tiroir à l'époque.
On les verra jamais ?
Ouais, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus.
Et vous n'imaginez pas faire ce métier un jour ?
Pas du tout.
Et je crois qu'il y a quand même une scène importante, c'est une scène ouverte dans un bar de la place de Clichy, où un soir vous avez dit un de vos premiers poèmes qui s'appelait Cassiopée.
Le premier même, oui. Complètement, ça c'est la date très importante, octobre 2003, où je découvre le slam, enfin je connaissais le slam de nom, mais en tout cas pour la première fois je m'y arrête, je m'assois dans ce bar, j'écoute pendant 2 heures des poètes et des poétesses, des messieurs tout le monde, de toute génération, hommes, femmes, anciens, jeunes, et là je prends une vraie claque et je me dis mais j'ai envie de participer à ça quoi. Donc là je rentre chez moi, j'écris mon premier texte, vraiment le premier texte que j'ai envie de dire, de partager avec des gens, et je reviens le mois d'après parce que c'était une petite scène mensuelle, la fameuse scène ouverte où tout le monde peut participer, et là voilà, je dis mon premier texte.
Et ça a été un succès immédiat ?
Bah oui, un succès, dans le succès d'un petit bar où il y a 40 personnes,
ouais.
Mais oui, un beau succès, une belle attention, des applaudissements fournis, et là tout de suite j'ai ma première adrénaline de scène et je me dis que j'ai qu'une envie, c'est recommencer.
Le slam, il paraît qu'il est né à Chicago.
C'est ça, ouais. À la fin des années 80, il y a monsieur Mark Smith qui avait un club de jazz et un jour, lui, il aimait beaucoup la poésie, mais il trouvait qu'elle avait une image pas assez moderne. Il a enlevé les musiciens de sa petite scène de son club de jazz, il y a mis juste un micro et il a organisé des soirées poésie, même des tournois de poésie, pour rendre la poésie plus orale, plus vivante et plus spectaculaire.
Et en France, il y a le premier album reconnu, c'est un album de Gérard Ansaloni qui s'appelle Le Cerisier.
Un cerisier dans le jardin s'était posé, je le voyais, esprit. Es-tu Jean de la Lune ou bien là?
C'est vrai, c'est vraiment lui qui est le pionnier en album. C'est un disque enregistré à l'initiative de Pierre Barou.
Eh ben, je ne savais pas, non, je ne connais pas ce monsieur.
Eh ben, ce monsieur a été un pionnier du hip-hop. Il a fait des premières parties de Bernard Dimet. Et il avait 38 ans quand Pierre Barou l'a repéré. Pierre Barou, la voix d'un homme et d'une femme, il lui a proposé de faire un slam.
D'accord.
Et c'est
non,
le premier
savais.
Slam reconnu, Gérard Ansaloni. Alors, à l'époque, vous appelez encore Fabien. Crois que vous avez
Je m'appelle toujours Fabien.
Oui, mais enfin, Grand Corps Malade, c'est venu parce que ça faisait un peu sioux, je crois.
Ouais, c'est ça. Bah, moi, quand j'ai dans cette fameuse scène ouverte dans le petit bar Place de Clichy, j'ai vu que la plupart des slameurs avaient tous des noms plus bizarres les uns que les autres, des pseudonymes. Il y avait Neobled, Dagoblin, Ruda, John Pooch Chocolat. Donc je me suis dit, tiens, moi aussi, il me faut mon nom bizarre. Et moi, j'aime bien les noms de sioux, voilà, qui caractérisent un physique ou un esprit en 2-3 mots comme ça. Donc vraiment, pour plaisanter, j'ai dit, je m'appelle Grand Corps Malade, en imaginant bien que ce nom allait me suivre qu'une seule soirée. Bon, ben voilà, 17 ans plus tard, il est bien installé.
Voilà, c'est raté de ce côté-là. Et vous commencez à travailler avec un collectif, et John Pooch Chocolat, justement.
Justement, ouais, le cercle des poètes sans instru. Donc on est 7 slameurs à commencer à s'organiser. Un petit spectacle un peu plus organisé, justement, parce que d'habitude, c'est juste une scène ouverte où chacun dit son texte. Là, c'est un vrai petit spectacle et on commence à faire quelques petits festivals.
Oui, et puis il y a Slam à l'Ikoumen, qu'est-ce que c'est ?
Slam à l'Ikoumen, ça, c'est les soirées, justement, où je deviens vraiment activiste des scènes slam. Et il y avait une vieille scène slam historique pas loin de chez moi à Saint-Denis, mais où j'étais encore jamais allé, et cette fois j'y vais, et puis l'année d'après, en 2004, je reprends même l'animation, et c'est moi qui anime avec mon pote Ami Karim et John Pooch Chocolat, on anime les soirées mensuelles de slam dans ce café culturel à Saint-Denis pendant au moins 6 ans.
Et pendant 6 ans, le public est de plus en plus nombreux, et pas toujours jeune.
Ah bien sûr, bah dès le début, dès que ça démarre, je vois que le slam touche toutes les générations. Il y a vraiment des anciens qui slament. Et quand je dis des anciens, je me rappelle d'un slameur qui s'appelait l'Octogénaire et qui avait 86 ans de mémoire et du coup, voilà, qui slamait aussi. Et ces soirées-là, évidemment, ont eu un gros succès parce que après, donc ça, à 2006, il y a mon premier album qui sort. Donc le slam devient un peu plus médiatique. Mais moi, je continue d'animer ces soirées-là et ça vient d'un peu partout en France. Ça devient un peu une scène référente.
Oui, avec toutes sortes de slams. Mais le slam, à l'inverse de la poésie, il n'y a pas de règles précises, c'est instinctif.
Ouais, encore que certains poètes vous diraient que la poésie n'a pas de règles non plus, ouais. Justement, qu'il faut s'affranchir des règles. Et oui, dans le slam, la plupart évidemment écrivent en vers, avec le jeu de jouer avec les mots, de jouer avec les sonorités, de faire des rimes, mais on n'est pas obligé, on peut aussi scander en prose, on peut chuchoter, crier, chanter, c'est un moment de totale libre expression.
La libre expression, elle a continué, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 13 novembre 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Grand Corps Malade.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Grand Corps Malade. Cet album Mesdames, dont on parlera tout à l'heure, un hommage respectueux aux femmes. Mais un hommage respectueux, c'est celui que vous avez fait le 13 novembre 2010 avec un artiste désormais mythique.
L'homme est un solitaire.
L'homme est un solitaire.
Qui a besoin des autres.
Qui a besoin des autres.
Alors là, c'est un événement. Charles Aznavour, 86 ans, est sur scène avec vous dans une émission de Michel Drucker, Champs-Élysées, et vous chantez Tu es donc, j'apprends.
Ouais. Ouais, j'avais eu le culot. De proposer à Charles Aznavour de faire un duo. Et il était venu me voir en concert. Voilà, je savais qu'il appréciait mon travail. Et il m'a dit, ça marche, on va faire un duo, mais vous écrivez le texte et moi je ferai la musique. Vous voyez tout le monde, Charles. Et donc, voilà, je me retrouve à devoir écrire un duo et devoir écrire la partie de Charles Aznavour. Et il m'avait dit, écrivez ma partie en alexandrin. Je sais que ça, je pourrais le mettre en musique facilement. Donc voilà, j'ai écrit ce texte. La suite de Je pense, donc je suis, c'est Tu es, donc j'apprends.
Et finalement, le texte que vous avez écrit, il l'a accepté tout de suite ?
Ouais, il l'a accepté. Il m'a retouché quand même deux, trois petites choses avec la précision qui le caractérise. Mais oui, il a accepté le texte, on l'a enregistré, on l'a fait sur scène.
Et il disait toujours d'ailleurs, Charles Aznavour, je ne considère qu'une chanson est terminée quand je n'ai plus un seul mot à ajouter.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais, bah, il retravaillait beaucoup ses textes et très pointilleux jusqu'au bout. Ouais.
C'est-à-dire qu'il était passionné par la jeune génération, il voulait toujours aller vers l'avant et écouter pour transmettre.
Ouais, il était très curieux, c'est pour ça qu'il a été toute sa vie si moderne, c'est qu'il s'est un des premiers artistes tellement installés qui s'est intéressé au hip-hop, justement, au rap français. Il avait remis un prix à MC Solar. Et quand le slam est arrivé, il a été très intéressé aussi. Et voilà, c'est vrai que c'est cette curiosité-là, cette ouverture d'esprit qu'il caractérisait aussi jusqu'à la fin.
Oui, et il considérait la transmission comme essentielle. D'ailleurs, il avait tout un projet d'éducation autour de la musique qu'il devait transmettre à Emmanuel Macron, le rencontrer, malheureusement, un mois après sa disparition. Donc, le rendez-vous ne s'est pas fait et le projet n'a pas existé. Il a aussi été, je crois, le parrain de votre premier album, Charles Aznavour, Grand Corps Malade.
Oui, en fait, mon producteur, le premier depuis le début, qui s'appelle Jean Rachid, voilà, avait cette connexion directe, familiale, avec Charles Aznavour.
Oui, c'est son gendre.
C'est son gendre. Et du coup, voilà, il, très, on va dire, très timidement, il a fait écouter mon travail à Charles Aznavour pour savoir si il avait quand même envie d'avoir l'avis du maître. Et c'est vrai qu'il nous a tout de suite adoubé en disant c'est beau, c'est la langue française qui est mise en avant, c'est des jolis textes. Donc du coup, c'est vrai qu'il nous a un petit peu aidé à se lancer au niveau de ce premier album.
Et ce premier album, la chanson phare, c'était Midi 20.
Je suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien qui me regardent un peu chelou.
Vous racontez votre vie entre le lever du soleil et midi 20.
Voilà, le fameux la vie à l'échelle d'une journée. Et du coup, dans mes petits calculs, au moment où j'écrivais ce texte, il était à peu près midi 20. J'avais eu une matinée un peu mouvementée, mais il me restait encore tout l'après-midi et la soirée pour essayer de faire des belles choses.
Oui, et puis vous avez joué les prolongations, puisque cet album est un succès. Je crois que vous êtes une des 10 meilleures ventes de l'année, et vous allez faire 120 dates de tournée, Grand Corps Malade.
Ouais, toutes les tournées qui ont suivi ont eu au moins 120 dates. Puisqu'aujourd'hui, je dois en être au moins à 700 concerts. Donc, c'est vrai que moi, chaque tournée, j'imagine pas un disque sans le défendre sur scène. Moi, on parlait du petit bar, la place Clichy tout à l'heure. Moi, artistiquement, je suis né grâce à la scène. Donc, pour moi, chaque album, chaque disque, il est là uniquement pour faire de la scène. Et c'est vrai qu'on fait des longues tournées à chaque fois.
Oui, et puis le slam, ça se partage en public, à l'inverse d'autres chansons.
Exactement. Pour moi, je vois pas un texte pour être uniquement gravé sur un album. Bien sûr, un album est terriblement excitant à faire, travailler avec des musiciens. Aujourd'hui, le slam à la base, c'est a cappella. Là, c'est des textes mis en musique et de main de maître par des grands compositeurs avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis 15 ans. Mais voilà, ce support disque ne me suffit pas. Moi, il faut que j'aille partager avec des gens.
Mais cette évolution de passer justement de a cappella à l'orchestre, c'était pas évident. Vous n'y pensiez pas au début, Grand Corps Malade ?
Au début, non. Quand j'étais dans les petits bars, je pensais pas du tout. Mais dès ce premier album, on a eu la chance d'avoir un album très musical.
Alors, vous êtes passé finalement des petites salles et du Jamel Comedy Club, je crois que vous êtes ainsi passé à des grandes salles. C'est pas du tout la même façon de dire le slam ou de le chanter.
Bah si, honnêtement, j'ai la chance, même sur mes dernières tournées, de faire des salles très différentes. À la fois, on a fait plusieurs salles Playel, plusieurs Olympia, et puis aussi plusieurs festivals en plein air, devant des milliers, dizaines de milliers de personnes. Mais j'aborde les choses à peu près pareil que quand je suis dans un petit centre culturel de 400-500 personnes, parce que ça m'arrive aussi de faire ces petites salles-là. Et il n'y a pas tant de différence que ça, finalement.
Non, mais oui, ça, économiquement, c'est intéressant, parce que vous n'avez pas besoin d'un orchestre symphonique.
Non, mais en même temps, sur les dernières tournées, j'ai toujours... Trois musiciens sur scène, multi-instrumentistes, qui permettent de faire beaucoup de choses. Mais oui, je ne suis quand même pas avec un symphonique.
Alors, il y a eu quand même les Victoires de la Musique, avec trois prix. Trois nominations et deux prix.
C'est ça.
Et c'est quand même un moment émouvant pour vous.
Bien sûr, surtout que c'est arrivé très vite. Voilà, moi, je me suis découvert artiste un peu sur le tard. Et puis, finalement, trois ans après, je fais déjà un album qui marche vraiment très fort. Et puis, on se retrouve Victoire de la Musique. Et puis, on a même ce prix-là. Voilà, tout ça est arrivé un peu sans que je m'en aperçoive.
Et quand on est dans la salle et qu'on apprend qu'on a la Victoire de la Musique, qu'est-ce qu'on ressent, Grand Corps Malade ?
Oui, une espèce de fierté, mais aussi... une espèce de reconnaissance de ce prix-là, il est pour toi, mais il est pour tous tes proches surtout. Voilà, moi j'avais demandé en tout cas qu'on soit au moins 10 autour. Là, je ne sois pas tout seul assis dans la salle. Il y avait évidemment Jean Rachid qui m'a produit, il y avait la maison de disques, il y avait mes parents, ma sœur, mes potes, celle qui est devenue ma femme. On n'était pas encore mariés à l'époque. Voilà, on était déjà tous ensemble et cette victoire, elle était pour toute l'équipe.
Oui, et vous n'y pensiez pas forcément cette victoire?
À la base, non. Par contre, pendant la soirée, oui. Pendant la soirée, t'es assis là et t'es nommé trois fois. T'espères quand même repartir avec au moins une. Sinon, tu dis, bon, 0 sur 3, c'est dur.
Exactement. Alors, la première télé où vraiment le public vous a découvert, je crois que c'est une émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, où vous avez été invité à dire un slam sur Saint-Denis. Et la tête d'Ardisson et du public en vous écoutant, c'était étonnant.
Ouais, ça a été la première grosse télé. En fait, j'avais fait une petite télé invitée par Eric et Ramzy qui m'avaient vu sur scène dans un petit bar. Ils m'ont incrusté dans une émission de télé déjà de Ardisson, mais une petite émission sur le câble. Là, j'avais slamé et Ardisson avait tellement aimé qu'il m'a dit « Allez, tu vas venir faire Tout le monde en parle », qui était l'antre de la promotion, la grosse émission de promotion sur France 2. Et là, voilà, il m'a demandé de refaire ce texte. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu énormément de réactions. D'un seul coup, je découvrais la puissance de la télévision. D'un seul coup, j'ai l'impression que tout le monde m'avait vu slammer, quoi.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est que lui, qui est toujours dur, méchant, il vous accueille, il se lève pour vous accueillir. Puis après, il n'y a pas un mot de méchant. C'est vraiment, il vous écoute avec passion. Il a l'impression de faire une découverte.
Ouais, et puis je pense qu'il était fier aussi de faire découvrir au grand public ce que je faisais. Et puis même Laurent Baffy, qui est là surtout pour faire des vannes et aussi pour s'amuser à être un peu méchant, même si on sait qu'il ne l'est pas vraiment. Et ben là, pareil, il m'a fait que des compliments. C'était étonnant de les voir dans cette posture.
Et je crois que même Ardisson vous a comparé à Jacques Prévert, Grand Corps Malade.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Quel honneur.
Ouais. Et Prévert qui disait « Je ne suis pas poète, on m'a appelé comme ça, mais je suis un artisan. J'écris pour faire plaisir à beaucoup et pour en emmerder beaucoup d'autres. »
Est-ce que ce n'est pas la définition de la poésie, ça?
C'est votre cas aussi, non?
Bon, moi, j'écris plus pour faire plaisir que pour emmerder. Alors, tant mieux si, de temps en temps, il y a des thèmes où tout le monde n'est pas d'accord et ça chagrine certains. Mais j'aborde la poésie avant tout pour essayer de chroniquer, de sublimer un peu notre quotidien, le plaisir de jouer avec les mots. On a une langue qui est très riche et les mots sont vraiment une patte très, très sympa à modeler.
Il y a eu des opposants au slam, comme d'habitude. Au départ, on dit « qu'est-ce que c'est que ça, non ?»
Oui, des opposants, c'est beaucoup dire. Il y a eu quelques gens un peu perplexes, qu'il fallait un peu plus convaincre.
Voilà. Alors, il y a eu des opposants au slam comme il y a eu des opposants au jazz. Et l'un des pionniers du jazz en France, c'est Charles Trenet. Et moi, je me souviens très bien d'une chanson. J'étais à l'enregistrement en 98. L'album n'est pas sorti à cette époque-là. C'était en 93. Parce que tout le monde disait, ça n'intéressera personne, cette forme de langage. Ça s'appelait Fais ta vie. Et écoutez, parce que c'est presque du slam.
Fais ta vie. Il n'attend rien des autres. Fais ta vie loin des mauvais apôtres. Débarrasse-toi des préjugés, des conseils, des idées reçues qu'il ne faut pas recevoir. Regarde, écoute.
Je ne sais pas si vous connaissez ce texte.
Non, je le découvre, mais oui, là, on dirait vraiment...
Du slam. Ouais. Et à l'époque, moi, je me souviens très bien, j'avais dit, c'est génial, il faut sortir ça. Non, les maisons de disques, ça n'intéressera personne. Voilà, et la chanson est sortie après sa mort. Alors, pour vous, les albums se sont enchaînés, et à chaque fois, ils ont été plus profonds. Par exemple, Enfants de la ville, les accompagnements musicaux sont plus affirmés. Troisième temps, les textes sont plus engagés. Familial, c'est la tendresse. À chaque fois, une évolution.
Ouais, j'essaye. En tout cas, je sais pas tout le temps où arrive l'évolution, le progrès, etc. Mais évidemment, le but pour un artiste, c'est de se renouveler, de proposer des choses différentes, de, même sur un même thème, de lui trouver un angle d'attaque plus original. Et voilà, j'essaie de progresser à ma façon.
Ça veut dire beaucoup de travail ?
Ouais, beaucoup de plaisir aussi. Hein. C'est du travail, bien sûr, mais moi, le moment d'écriture n'est pas un moment de souffrance, au contraire. Donc, voilà, l'écriture, c'est que du plaisir.
Oui, mais en même temps, un texte, ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table. Ça se refait 1 fois, 10 fois.
Ouais, ça se fait un peu sur un coin de table, même si ça dure le temps qu'il faut. Non, je ne mets pas 1 mois à faire un texte. Je mets, allez, 2 jours. Et le texte, je le laisse mûrir dans un coin de ma tête. Et après, une fois que ça sort, ça prend pas trop de temps.
Vous êtes allé encore plus loin en 2015, Grand Corps Malade, avec un album qui s'appelle « Il nous restera ça ». Et vous avez invité plusieurs artistes de plusieurs générations à slammer. Ça aussi, c'était une idée originale.
Ouais, c'est un très beau souvenir. C'était un album d'auteurs. J'ai donné cette phrase « Il nous restera ça » à 10 auteurs très variés. Ça, il y avait plusieurs générations. Et dans les grands noms de cet album, évidemment, il y a Charles Aznavour, il y a Hubert-Félix Thiéfaine, il y a Renaud. Et puis après, accompagné de plus jeunes. Et l'idée, c'était justement qu'ils écrivent eux-mêmes et qu'ils viennent slammer eux-mêmes, interpréter sur l'album un texte inédit autour de la phrase « Il nous restera ça ».
Ils ont tous accepté.
Ouais.
Alors il y a même Renaud qui était dessus, et Renaud a toujours dit que grâce à cette chanson, grâce à ce slam, il a retrouvé le goût de l'écriture.
Ouais, j'y étais, je suis allé le voir chez lui dans le sud pour le secouer un peu. Tout le monde essayait de le secouer, ça faisait 8 ans qu'il n'avait rien écrit, il était un peu en dépression, on le sait, avec ses problèmes d'alcool. Évidemment, je n'apprends rien en disant ça, donc je me permets de le dire. Et voilà, je suis allé le secouer un petit peu, et finalement ce qui lui manquait, c'est ça. Tout le monde disait, il faut que tu refasses des tournées, mais en fait, ce n'est pas les tournées dont il avait besoin, c'est l'écriture. Donc j'ai commencé ce texte, c'est moi qui ai écrit le début, et là j'ai vu Renaud se rallumer sa flamme, commencer à compter sur ses doigts le nombre de pieds. Et ça y est, il s'est remis à écrire et ça a été un déclic pour lui.
Et cette chanson, ça s'appelle « Ta batterie ».
Tu voulais faire du bruit, comme j'en ai fait parfois. Ça m'a bouffé la vie. Fais gaffe à tes petits doigts. J'aimerais bien qu'un séjour...
Il est même venu sur scène avec vous.
Ouais.
Ça a été un événement. Vous commencez la chanson et il arrive derrière.
Ouais, et puis je commence pas n'importe quelle chanson. Je commence Mistral gagnant. Ouais. Je suis sur un banc, parce qu'il y avait un banc pour la mise en scène. J'ai dit, tiens, comme je suis sur un banc, j'ai envie de chanter la chanson de Renaud. Comme je connais bien Renaud, il m'a autorisé à la chanter. Donc je fais vraiment croire qu'il est pas là. Je fais le premier couplet. Et là, dans une ovation extraordinaire, Renaud entre sur scène pour chanter le deuxième.
Et là aussi, ça lui a fait plaisir. On sentait qu'il était heureux d'être sur scène.
Ouais, en même temps, il était tétanisé parce qu'évidemment, sa voix était en pleine rééducation. Il n'avait pas trop de voix. Il était, en plus, on sait que Renaud, il est la peur de, s'il n'est pas à l'aise sur ce. Enfin, il avait peur, mais en même temps, il était très excité à l'idée de remonter sur scène. Et on sait, on connaît la suite. Hein. Il a sorti un album qui a cartonné. Il a refait une tournée de 200 dates. Donc voilà, c'était la renaissance.
Et vous l'avez revu depuis ?
Ouais, je l'ai vu cet été, ouais.
Et finalement, il est heureux d'être remonté sur scène.
Ah bah bien sûr, ça fait il a prolongé sa carrière à un moment où lui-même pensait qu'elle était terminée.
Et vous la prolongez, j'espère, pour très longtemps. Et justement, il y a un nouvel album, je l'ai annoncé, on va en parler, ça s'appelle Mesdames. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 11 septembre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Grand Corps Malade.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Grand Corps Malade, 11 septembre 2020, sortie de Mesdames, un nouvel album. Alors c'est un hommage à la femme et aux femmes.
Ouais, c'est vraiment un hommage à la gente féminine, une volonté de mettre à l'honneur les femmes, toutes les femmes. C'est aussi d'ailleurs pour ça que c'est que des duos, donc avec des femmes, et c'est toutes sortes de duos avec des femmes aux profils très différents.
Alors pourquoi cet album ? Pourquoi cette envie de rendre hommage, un hommage respectueux et affectueux aux
et
femmes ?
Et sincère, surtout et sincère. Je fais partie de ceux qui sont vraiment choqués de à notre époque, hein, toujours de cette inégalité homme-femme, de cette toute surpuissance de l'homme sur la femme dans plein de domaines, dans le milieu professionnel, dans la rue, dans les transports, dans le milieu artistique. Et du coup, j'ai pas attendu les mouvements MeToo, Balance ton port pour avoir conscience de ces inégalités-là. J'ai grandi en entendant des fois des statistiques très choquantes sur à quelle date les femmes ont eu le droit de vote en France, à quelle date elles ont eu le droit d'avoir un compte en banque. Donc pour ces 45 pour le droit de vote, 1965 pour le compte en banque. Je me rappelle déjà à l'époque, j'étais complètement choqué, me disant mais pourquoi, qui a décidé à un moment qu'elles n'avaient pas le droit de voter, qu'elles n'étaient pas assez intelligentes. Enfin voilà, ça m'a vraiment halluciné. Je trouvais ça surréaliste. Et évidemment, ça a un peu progressé, mais ça prend encore du temps. Il y a encore ces inégalités-là. Et du coup, cet album, il est aussi pour parler de ça, mais pas que. Oui. On parle aussi de plein d'autres thèmes, et c'est aussi juste le plaisir artistique de chanter avec des femmes.
Voilà, et effectivement, ces thèmes, on va les évoquer. Le premier titre de l'album, c'est celui de l'album, Mesdames.
Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse.
Alors cette chanson est composée par Mossimane, c'est un fan de toujours, de Grand Corps Malade, donc de vous, et qui est intervenu dans l'album.
Ouais, qui a même fait toutes les musiques de l'album.
Oui.
Il m'a dit après que, en fait, parce que mine de rien, il est quand même un peu plus jeune que moi, et que quand il était plus jeune, lors de mes premiers albums, quand il entendait des textes de moi qui parfois étaient a cappella, lui il se mettait au piano et il jouait de la musique sur mes textes. Donc finalement, on l'a fait grandeur nature sur tout un album, et il a amené énormément à cet album. Il a énormément de talent. Il est DJ, donc il a les rythmiques imparables, mais en même temps il a cette subtilité dans les arrangements, dans les mélodies.
Il s'appelle Quentin Mossimane. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a dit, comme DJ, il a débuté à la montagne en Haute-Savoie, et c'est en descendant dans la plaine qu'il est arrivé au sommet.
Exactement.
C'est paradoxal. Alors, c'est un mélange de variété pop et d'électronique, pointu et grand public, avec de l'électro-urbain. C'est un dosage savant.
Ouais, c'est un peu tout ça, mais justement, ce dosage est très bien réalisé, et tout ce dosage est au service du texte. Et moi, quand je fais un album, ça reste ma priorité, qu'on ne soit pas obligé de tendre l'oreille, que la musique soit là pour mettre en valeur les paroles. Et cette musique est très très aboutie, et en même temps elle sert le texte.
Alors, les paroles sont toutes compréhensibles, ce qui est le minimum, mais ce qui n'est pas toujours le cas.
Exactement.
Dans les albums. Et la musique est aussi une musique que l'on retient. Ce n'est pas des sons, ce sont des mélodies.
Bien sûr, il y a des très belles mélodies entêtantes, dans le bon sens du terme. Donc oui, tout ça je le dois au travail de Mossimane.
Alors, il se trouve que Mossimane a été découvert par quelqu'un qui est François Bernheim, qui lui a donné sa première chance. Et François Bernheim est indirectement lié à une autre chanson de l'album, Une sœur, que vous chantez avec Véronique Sanson.
Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une sœur.
On a grandi dans la même chambre et on a écouté les mêmes histoires. Quand mes plus lointains souvenirs s'assemblent, je croise forcément son regard.
Cette chanson, donc, c'est un duo avec Véronique Sanson avec qui vous avez déjà chanté voici 3 ans. Et ça, c'est des couplets en hommage à Violaine, sa sœur.
Ouais, et en hommage à ma grande sœur. En fait, ouais. C'est vraiment un hommage commun. Et comme il se trouve que je connais Véronique Sanson, du coup, je connais aussi sa grande sœur Violaine. Et du coup, je sais l'attachement qu'elles ont l'une pour l'autre, et que Violaine est un peu dans l'ombre de toute cette carrière incroyable de Véronique Sanson. Et du coup, il y avait quelques points communs avec ma sœur, qui, moi, n'est pas dans l'ombre de... Elle travaille pas du tout dans la musique, mais en même temps, elle est là, loin des médias, et on est très proches. Et j'avais envie aussi d'écrire pour elle, sur elle. Et du coup, on a fait une chanson commune pour un hommage commun à nos grandes sœurs.
Et quand je vous parlais de François Bernheim, en fait, il se trouve que... Il a rencontré Violaine et Véronique adolescents à Caldetas en Espagne en vacances. Ils ont joué de la guitare ensemble et ils ont fait un groupe qui s'appelait les Roches Martin. Ils ont fait un 45 tours qui n'a pas marché, mais finalement c'est le premier album de Véronique Sanson.
Ouais, j'ai entendu parler de ça, exactement.
Alors finalement, ce côté respectueux, il y a aussi la galanterie, parce que c'est une chose que vous défendez, et pas seulement dans l'album, la galanterie, on n'en parle plus aujourd'hui, pourtant c'est important. D'un homme pour une femme.
Bien sûr, ouais, moi je trouve ça très important, d'être dans le respect absolu de nos sœurs, de nos filles, de nos mères. Et la galanterie, c'est pas quelque chose qui doit disparaître.
Voilà, la galanterie, bon, alors on peut ouvrir la porte à une femme, je suis un peu renseigné, mais il ne faut pas dire les femmes d'abord, parce que ça fait ringard. Et surtout, le baise-main ne se fait plus, parce que le baise-main, au Moyen-Âge, tradition d'un homme pour une femme, c'était une façon de dire à une femme son respect, et de dire « je ne vous draguerai pas parce que vous êtes déjà mariée ».
D'accord.
Ça a beaucoup évolué depuis. Alors, ces chansons, ces chanteuses, comment vous avez choisi, comment vous avez mêlé les générations, Grand Corps Malade?
C'est un peu ça, le premier critère, c'est de mêler les générations. J'avais envie donc de mettre les femmes à l'honneur, comme je vous disais, de mettre toutes les femmes, c'est-à-dire de toutes générations confondues, de différents profils, même de différents métiers, puisqu'elles n'ont pas toutes le même métier. Il y a certaines artistes sur l'album qui sont chanteuses, d'autres comédiennes, il y a des instrumentistes, les sœurs Berthollet, qui sont des virtuoses du violon et du violoncelle. Il y a cette jeune slameuse qui est au collège, qui a aujourd'hui 15 ans et qui n'est pas du tout professionnelle de la musique. Donc voilà, il y a toutes les générations.
Et parce qu'il fallait les trouver, il fallait les choisir. Le choix a été cornélien, presque.
Bah oui, c'est sûr. Là, des belles artistes, que ce soit chez les chanteuses ou les comédiennes, évidemment, on n'en manque pas. Donc oui, c'était un choix compliqué.
Alors, il y a une des chansons, c'est « Mais je t'aime » que vous chantez, Grand Corps Malade, avec Camille Lelouch.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je t'aime, je t'aime.
Il y a une fusion dans l'émotion, non ?
Ouais, il s'est passé quelque chose sur cette chanson. Ouais, c'est vrai que les paroles assez simples, le clip, on a fait un clip en noir et blanc, très épuré, juste de profil où on est soit face à face, soit dos à dos. Le clip a été vu plus de 30 millions de fois, je crois. Il y a eu un truc, d'un seul coup, l'alchimie entre deux voix, une musique, des paroles. Voilà, le public s'est approprié 100% cette chanson.
Surtout que cette chanson, je crois qu'elle avait 3 ans, elle l'avait écrite et elle n'était restée dans les tiroirs.
Ouais, c'est ça. Au moment de lui proposer de faire un duo, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que Camille Lelouch faisait partie des artistes que je connaissais déjà, parce que c'est pas le cas de toutes sur l'album. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on démarre de zéro, on réécrit une chanson de A à Z. Et puis elle m'a dit, moi j'ai quelques bouts de chansons pas vraiment finis, et elle m'a joué celle-là et au piano, et j'étais bouche bée. J'ai dit, mais alors on s'arrête là, on prend cette chanson, on n'écrit rien d'autre. Enfin, moi j'ai écrit ma partie pour compléter la chanson et pour répondre à ses couplets, mais en tout cas c'est vraiment, cette chanson vient d'elle.
Alors il faut savoir qu'elle, bon, aujourd'hui elle est très connue, elle fait beaucoup de choses, de l'humour, des chansons, du cinéma. Elle a été repérée dans une brasserie, la Terrasse des Archives, où elle a travaillé 3 ans, et elle servait son café tous les matins à Mouloud Achour, présentateur de télévision, ouais. Qui était, paraît-il, très sympa avec elle.
Il paraît, mais ça ne m'étonne pas de lui.
Alors, vous évoquez aussi des sujets d'actualité dans cet album. C'est le cas des Enfants du Désordre, que vous chantez avec Alicia.
Il est parmi tant d'autres, un enfant du désordre.
La violence est une rancœur qu'on a laissé grandir, une colère prisonnière qui ne veut.
Ça, c'est ce que vous appelez le fatalisme social des cités dont on parlait tout à l'heure, Grand Corps Malade.
Ouais, le fatalisme dû au fait que les choses n'évoluent pas depuis plusieurs décennies. Et voilà, je connaissais ces cités en tant qu'adolescent. On y est retourné pour le film La vie scolaire dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai redécouvert ce que c'est qu'être adolescent dans ces quartiers-là. Et oui, les choses n'ont pas évolué.
Et vous dites qu'on paye 30 ans d'erreurs de l'État.
30 ans, je dis pas d'erreur, je dis du fait que l'État ferme les yeux.
Oui.
Voilà, l'État ferme les yeux depuis 30 ans.
Qui est une erreur.
ce qui rejoint l'erreur, vous avez raison.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ah bah si je le savais exactement, j'essaierais d'être ministre de la ville. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une vraie volonté politique de changer les choses en profondeur, en investissant évidemment massivement dans ces quartiers-là, à tous les niveaux, changer l'urbanisme qui est là et qui pèse sur les mentalités, faire plus de prévention, plus d'éducation, plus de culture. Mais il faut investir en tout cas beaucoup plus d'argent que ce qui se fait depuis des années.
Alors le temps pour vous, c'est pas de l'argent, mais le temps, vous le chantez pendant 24 heures avec Suzanne. Alors ça, c'est ce que vous appelez le manifeste féministe de l'album Grand Corps Malade.
Ah bon, j'ai dit ça.
Oui.
En tout cas, oui, c'est une des chansons les plus féministes, certainement. On s'est amusé avec Suzanne à échanger les sexes. Je suis dans la peau d'une femme pendant 24 heures et Suzanne dans la peau d'un homme. C'est une idée de Suzanne, d'ailleurs, très, très belle idée qui m'a beaucoup plu. Et du coup, on a écrit chacun sa partie où voilà, je m'imagine en femme, elle en homme. Et évidemment, on dit quelques vérités qui nous tiennent à cœur dans ce morceau-là. Donc voilà, sur les inégalités hommes-femmes, sur le fait qu'une femme peut pas être tranquille dans la rue. Voilà, on parle de ça et en même temps, après, on s'amuse... Voilà, à se jouer un peu des clichés hommes-femmes et à alimenter ces clichés avec beaucoup d'autodérision.
Oui, et d'ailleurs, je crois que dans les lycées en ce moment, c'est une chanson qu'on écoute beaucoup. J'ai autour de moi une adolescente qui m'a parlé de cette chanson parce que ce sont des thèmes qui intéressent les jeunes. Il y a aussi l'écologie que défend Suzanne depuis longtemps.
Bien sûr, ouais,
Suzanne que vous avez connue au Francophonie de la Réunion, je crois.
Ouais, je la connaissais de scène. Évidemment, je l'ai vue débarquer dans le paysage musical depuis 2 ans. Je la trouvais super. On s'est vraiment rencontrés pour la première fois au Franco de la Réunion, et c'est là qu'on a commencé à parler de ce duo. Et ouais, c'est une très belle artiste avec des vraies valeurs. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Et sur les réseaux, on voit où ils le savent, qui a été tourné dans une des plus grandes décharges de ciel ouvert près de Dakar.
Ouais, c'est ça. Il est où le SAV ? Elle parle du SAV de la planète.
Alors, il y a aussi ces sœurs Berthollet dont on a parlé, Julie et Camille Berthollet, c'est inattendu, car une fait du violon et d'autres du violoncelle, et elle chante avec vous « Chemin de traverse ».
Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse. pour rêver nos lendemains. On a pris d'autres chemins. On a pris d'autres.
D'où vient cette idée? Parce qu'effectivement, les sœurs Berthollet ne sont pas a priori des chanteuses.
Non, mais d'ailleurs, elles chantent à peine. Là, on entend la voix de Julie dans le refrain. Voilà, on avait besoin d'une petite voix féminine. Moi, je trouvais que c'était bien qu'on l'entende aussi. Mais sinon, évidemment, c'est un duo, non pas avec leur voix, mais bien avec leur violon et leur violoncelle. Mosimane a fait des arrangements sur mesure avec une musique très rythmée, mais pour mettre en avant leurs cordes. Et c'est vraiment un dialogue entre ma voix et leurs cordes. Et je trouve, enfin voilà, la musique de Mosimane est très réussie là-dessus, je trouve que c'est un de mes petits titres chouchous de l'album aussi.
Mais il fallait y penser en plus à ça.
Alors ça, en fait, c'est grâce à elle, puisque c'est Mosimane qui a vu une émission de télé où elle parlait de moi, où elles ont dit qu'elles appréciaient mon travail. Il m'a dit ça, et là, on s'est dit, mais évidemment, ça pourrait être pour continuer à servir l'éclectisme de l'album, d'avoir les deux sœurs au violon pour faire un duo inédit entre voix et cordes. Voilà, c'était l'occasion.
Et en plus, c'est lié à votre album, puisque juste avant le confinement, elles ont dénoncé les violences sexuelles dont elles avaient été victimes dans le milieu de la musique.
Et ben ça, je l'ai su après, mais je me suis dit, ben voilà, tout la boucle est bouclée, elles participent à cet album et tout est cohérent.
Et ce qui est cohérent aussi, c'est que ce confinement, vous le chantez avec Confiné, avec Manon.
Confiné, projet décimé, enfant consigné, bonheur confirmé.
Chanson d'actualité avec quelqu'un que vous aviez repéré en animant des ateliers d'écriture à Saint-Denis, encore malade.
Pas complètement, non, là c'était elle habite pas du tout Saint-Denis, mais elle a participé à un grand tournoi de slam intercollège, oui. Et la finale était à Paris, et moi j'ai assisté à la finale de ce tournoi de slam, donc j'étais juste parrain de ce tournoi, et bah voilà, elle a gagné le tournoi, et elle m'a tout simplement très impressionné par sa présence, par son texte, par son flow. Elle paraît comme ça toute fragile, toute timide, et en fait, elle envoie, comme on dit, et du coup, voilà, j'avais pris les coordonnées de ses parents en disant voilà, peut-être un jour je ferai quelque chose, parce que c'était il y a 2 ans, elle n'avait que 13 ans. Et ben voilà, 2 ans plus tard, je me suis dit ben voilà pourquoi j'ai pris ses coordonnées, c'est pour qu'elle participe à cet album.
Voilà, et le slam, non seulement vous y participez, mais vous participez à son développement. Je crois qu'aujourd'hui, dans les écoles, on fait du slam grâce à vous, Encore Malade.
Alors, nous, on a développé voilà, une petite méthodologie, en tout cas une ressource pédagogique pour tous les profs qui ont envie de faire du slam. Voilà, on a, à l'époque où Najat Vallaud-Belkacem était ministre, on avait développé tout un projet qui s'appelle Slam à l'école, et du coup tous les profs de musique, de français qui veulent faire un projet slam, eh ben, on a mis des ressources pédagogiques, une petite méthodologie, plein de capsules vidéo, parce qu'on a fait des ateliers un peu partout en France pour ce projet-là. Donc voilà, c'est lié au site de l'éducation nationale, le site Slam à l'école, pour ceux qui ont envie de monter des projets slam au collège ou au lycée.
Et comme travaux pratiques, je suggère Mesdames, ce nouvel album de Grand Corps Malade, qui est une merveille d'écriture, de musique et de poésie. Merci de l'avoir enregistré.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci, et vous revenez quand vous voulez dans les clés d'une vie, parce que comme vous, nous parlons vrai.
Merci Jacques, au revoir.
Eh bien, c'est la fin des clés d'une vie pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, et en attendant, soyez fidèles à Sud Radio.